France Inter.
Salut Frédéric, salut toute l'équipe. Écoute, je rentre du boulot, j'entends ton introduction de Derdivol sur les questions de handicap, qui est pile le sujet sur lequel je travaille, et je pense que tu as dû faire plaisir à énormément de personnes de tenir ce discours. Je m'attends à une émission formidable dans la mesure où Derdivol, c'est un des super-héros qui m'a sans doute le plus marqué quand j'étais enfant. Et là, tout à coup, vous commencez à parler de Frank Miller. Et je sens venir ce que je subodore quand vous parlez de ses influences. Et vous arrivez sur Lone Wolf & Cub, Baby Cart pour tout ce qui est du cinéma, Kozure Okami en version originale. Je t'en prie, j'allais t'appeler pour te le demander un de ces jours. Une émission sur Lone Wolf & Cub, par pitié. J'ai mis 20 ans à réussir à obtenir tous les volumes de cette série que je vénère. Il faut absolument que le reste du public qui ne la connaît pas encore la découvre. Bravo, j'adore t'écouter régulièrement l'été et le reste de l'année. Merci, merci, merci.
Eh ben, moi, je tiens à dire merci Fred pour cette émission sur Daredevil qui m'a rappelé quand je lisais Strange pourquoi je me suis mis à l'anglais. À cause de l'arc, justement, avec Elektra où j'en avais marre de la censure. Merci Fred.
Salut Fred. D'abord, un petit bonjour de la Réunion. Ensuite, je voulais réagir à ta présentation sur Daredevil et le lien que tu as fait entre le handicap et les super-héros. Cela m'a beaucoup ému et cela m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Et je me suis rendu compte que les héros, c'était ceux qui s'étaient construits malgré les difficultés de la vie, malgré les blessures qu'elle inflige. Les héros, ce sont ceux qui continuent à être eux-mêmes dans leur identité, malgré l'altérité subie au quotidien par la vie. Le héros, c'est encore celui qui sait s'ouvrir malgré tout, comme dans My Hero Academy. Et en cela, je peux dire que tu fais partie de mes héros, parce que quand on connaît un peu ta vie, quand on voit toute la bonne humeur que tu sais apporter à ton entourage et à de parfaits inconnus à travers la radio, les émissions, le blockbuster, bah, en fait, le héros, c'est toi. Bisous à tous. Bye.
To be or not to be, not to be.
L'autre jour, un auditeur m'a apostrophé via Instagram pour me reprocher gentiment de souvent faire avec mon parterre d'invités l'apologie de mauvais films. Alors, outre que ce jugement est profondément subjectif, je me suis dit à moi-même, oh, mais quelle naïveté! Il pense savoir ce qu'est réellement un mauvais film, que c'est touchant! Parce que s'il est vrai que certains blockbusters sont effectivement l'équivalent nutritif de la viande de hot dog cuite dans la margarine tartinée de mayonnaise, il ne faut pas s'y tromper. Il y a bien pire qu'un Fast and Furious ou un Transformers. Oh que oui! Je vous épargne, que dis-je? Je vous protège des vrais nanars! Ces films que j'ai vus, j'étais seul dans la salle, ou des fois il y avait juste un SDF qui était venu chercher le repos qu'il ne trouvait pas dehors. Ces doigts d'honneur au bon goût, ces films qui te donnent immédiatement l'envie de t'arracher les yeux et mâcher des lames de cutter, des films tellement mauvais que tu peux invoquer le diable si tu les passes à l'envers, les Dragon Ball évolution de notre époque, les comédies françaises potaches qui feraient passer Pattaya pour le dîner de con, des films d'horreur où la plus grosse source de terreur, c'est d'apprendre combien un producteur a dépensé pour ça. Ça, ce sont factuellement de mauvais films. Et il faut savoir que certains de ces films, j'ai eu la goujaterie d'amener la femme que j'aime les voir. Si vous voulez être sûr d'avoir trouvé le bon ou la bonne, regardez ensemble Donjons et Dragons version 2000 par Courtney Solomon. Si votre partenaire est toujours à côté de vous au générique de fin, vous pouvez être certain qu'il ou elle vous tiendra la main sur votre lit de mort. Néanmoins, des fois, il y a des représailles, des vengeances d'une fourberie sans nom. Une fois, ma compagne a voulu compenser une décennie de nanars que je lui avais infligé. Un film qui a vengé en une fois toutes les bouses que je lui ai imposées. Le nom de cette vengeance, Sex in the City, le film.
France Inter, Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
Si tu es une femme d'affaires renommée dans cette ville, tu as deux choix. Tu peux pleurer et te morfondre en essayant de trouver le grand amour, ou alors tu t'en fous et tu gères ton sexe toute seule comme un bon.
Tu veux dire avec un vibro?
Non. Je veux dire sans faire de sentiments.
Samantha Jones, le meilleur coup de New York. Son métier, relations publiques. De ce fait, elle couchait régulièrement avec des Apollons de 25 ans.
C'est la toute première fois dans l'histoire de Manhattan que les femmes ont autant de fric et de pouvoir que les hommes. Plus, la liberté de traiter ces messieurs comme des objets sexuels.
Oui, à part que ces messieurs n'acceptent pas la règle du jeu. Ils ne veulent pas vivre avec nous, mais dès qu'ils s'aperçoivent pour les utiliser,
tandis que pour le sexe, ils n'apprécient pas du tout. Tout d'un coup, ça leur fait un choc et boum, tour des sangs.
Et on les vire immédiatement.
Oh, arrêtez les filles, est-ce qu'on est aussi cyniques?
Vous êtes en train de dire que vous ne croyez plus en l'amour.
Mais non, ne t'inquiète pas, c'est de là. Le jour où elles rencontreront le mec idéal, tu verras que toutes leurs théories iront droit à la poubelle.
Non, non.
Le mec idéal, ce n'est qu'une illusion. Quand tu as compris ça, tu peux enfin commencer à vivre.
Donc, tu crois qu'il est vraiment possible qu'une femme arrive... Qu'elle arrive à n'être plus qu'un sexe comme un homme.
Tu te souviens de la séduction? Tu es obsédée par ce film, ça m'en...
Génial. Linda Fiorentino en train de baiser ce mec contre une palissade après l'avoir enchaîné.
Sans avoir le moindre remords dans le genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire?
Moi, j'ai détesté ce film.
Si les séries américaines de 2024 nous ont désormais habitués à une certaine liberté de ton en matière de paroles décomplexées, il ne faut pas oublier que la représentation des personnages féminins était tout autre dans les années 80. Une série est venue tout chambouler en 1998, abordant sans tabou la sexualité féminine, Sex and the City de Darren Star. La chronique new-yorkaise de Carrie Bradshaw et de ses trois amis, Charlotte York, Miranda Hobbs et Samantha Jones. Pour revenir sur cette série culte, je suis entouré par Jennifer Padjemi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivaine, vous êtes l'autrice de Féminisme et Pop Culture et de Selfie, comment le capitalisme contrôle nos corps, paru aux éditions Stock et disponible en poche chez Point. Avec nous de retour, Océane Zerbini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la productrice du podcast parlant d'adaptation en tout genre, le Lemon Adaptation Club.
C'est vrai.
Et une camarade, Caroline Desrosiers, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes attachée de production à France Inter et vous êtes extrêmement fan de Sex and the City. Il paraît même que vous connaissez certains dialogues par cœur.
Oui, mais on verra ça un peu plus tard, je pense.
On attend un peu. Les présentations sont faites.
Les mecs draguent les nanas pour la même raison que les chiens se lèchent les couilles. C'est parce qu'ils y arrivent. C'est un de leurs atouts biologiques. Au lieu de perdre toute cette énergie à condamner ce fait, on pourrait peut-être se calmer et se mettre en phase avec la réalité de la situation.
C'est un discours très libérateur, mais tu oublies un truc important, je crois.
Oui, j'espère. Les femmes trichent aussi.
Oui, mais c'est complètement différent.
Et en quoi?
Parce qu'on ne se balade pas en sautant sauvagement sur tous les mecs qui nous attirent.
Parle pour toi, mon chou.
On n'est pas dirigé par la testostérone.
Dans ce cas, quelle force nous dirige, selon toi?
L'émotion.
Tu veux dire les hormones?
Non, je parle de cette petite voix dans mon esprit qui dit « Avec lui pour la vie, avec lui pour la vie ».
Mon ange, arrête d'écouter chacune des foutues petites voix qui te passent par la tête, ça va te rendre malade. Je crois que c'est très dur de définir l'adultère en termes absolus.
Tu dis que l'adultère, ce n'est pas si grave?
Je crois qu'en fait, l'adultère a une courbe. C'est un graphique où la définition de ce qui constitue l'adultère est directement proportionnelle à l'envie que chacun a de commettre l'adultère.
C'est du relativisme moral, c'est terrible.
C'est plutôt une théorie des quantas appliquée à la tromperie. Mais le fait est que l'acte d'adultère est défini par l'acte de se faire coincer. Le premier n'existe pas sans le second.
Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode 6 de la saison 2 de Sex and the City, et j'en profite pour citer les actrices principales. Sarah Jessica Parker dans le rôle de Carrie Bradshaw, Christine Davis dans celui de Charlotte York, Cynthia Nixon joue Miranda Hobbs et Kim Cattrall joue l'incroyable Samantha Jones. Elles sont respectivement doublées en français par Martine Irzenski, Elisabeth Fargeau, Marie-Frédérique Haber et Mickey Sébastien. Alors je vous pose la question à toutes les trois, comment avez-vous découvert Sex and the City? Océane.
Bah moi ça s'est fait en deux temps, c'est que je devais avoir 14-15 ans et la série était diffusée en France après minuit très très tard sur M6 et en fait je l'avais vue un peu par épisode mais vraiment très morcelée et c'était les épisodes de 100 scènes de sexe. Donc en fait je les voyais parler de sexe mais je ne voyais pas de sexe donc je me suis dit bah en fait il n'y a pas grand chose à
oui c'était
à
juste classique quoi.
C'est très classique et ensuite c'est mon copain qui me l'a fait découvrir il y a quelques années et là j'ai vu en intégralité et donc oui j'ai compris pourquoi elle était diffusée en troisième partie de soirée parce qu'il n'y avait pas que la parole, il y avait aussi les actes.
Caroline?
Moi j'ai découvert, je vivais en Belgique et on parlait avec des copines, on n'avait jamais regardé la série et je suis tombée sur des coffrets à 9,99€, je m'en souviens très bien, dans un magasin et donc j'ai tous les coffrets et je me les suis fait comme ça direct, j'étais totalement absorbée par ces quatre femmes, voilà, c'était une rencontre incroyable.
Rencontre incroyable, Jennifer?
Alors moi j'ai découvert la série un peu comme Océane quand j'étais
plus jeune. Je crois que quand la série est sortie, j'avais 10 ans ou 9 ans, un truc comme ça. Je regardais passer des extraits à la télévision, mais sans vraiment comprendre ce qui se passait. Parfois, on voyait une paire de seins, une paire de pénis, enfin voilà, un pénis, pardon, un pénis tout court.
Quelqu'un d'extrêmement chanceux est passé à l'écran.
Et c'est vrai qu'avec mes yeux d'enfant, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais je savais que c'était intéressant pour les personnes plus âgées, notamment ma sœur, qui regardait aussi.
Alors, entendons-nous, qu'est-ce que c'est plus âgé? Parce que votre sœur, elle avait quel âge?
Elle était beaucoup plus dans la fin d'adolescence. Oui. Et c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que ça parlait de sexualité, mais d'une manière décomplexée. Et je pense que même si c'était pas forcément l'âge prérequis, il y a plein de pré-adolescents ou d'adolescents qui regardaient pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis, il y avait forcément la ville de New York, la mode et toute l'atmosphère de la série qui donnait envie de comprendre en fait qui étaient ces personnages. Et ensuite, j'ai redécouvert la série plus tard, donc vers la vingtaine, et encore plus tard, et encore aujourd'hui, où c'est assez drôle de voir que finalement, quand on est dans sa trentaine, on a le même âge que les personnages de la série au début de la série. Alors, oui. Pas Samantha, qui est la plus âgée, mais Carrie et les autres ont 30 ans au début de la série.
Et alors, est-ce qu'on fait des comparaisons en se disant, bon, où en était Carrie et où j'en suis, où en est Samantha et où j'en suis?
Oui, regarder la série avec des yeux d'adulte, c'est totalement différent parce qu'on les comprend, parce qu'on a vécu aussi des relations amoureuses, aussi toute la vie professionnelle, la vie amicale, parce qu'on l'oublie, c'est surtout une série d'amitié, je trouve, on pourra en parler plus tard. Et c'est vrai que la regarder avec des yeux d'adulte, c'est se dire que c'était super bien écrit et que ça prenait vraiment en compte tous les sentiments, tous les concepts amoureux, tous les paramètres en fait, qu'on peut vivre quand on commence à se lancer dans la vie amoureuse, en tant qu'hétérosexuel bien sûr.
Océane, comment est née cette série? Parce qu'en France, on l'a découvert via M6, mais aux États-Unis, c'était via HBO, la chaîne qui a offert Oz, Wire, Les Sopranos. Donc évidemment, qui avait déjà l'habitude d'avoir un ton un peu plus mature dans son propos. Et comment le projet est né?
Déjà, de base, Sex and the City, c'est l'adaptation d'un bouquin. Donc, c'était des chroniques new-yorkaises écrites par Candace Bushnell, qui était une journaliste américaine, et qui partageait ses expériences en prenant le nom de Carrie. Elle a souvent dit que Carrie, c'était un peu son alter ego dans les expériences qu'elle avait vécues. Et donc, la série s'est retrouvée adaptée par deux hommes gays, dont Darren Star. Et Michael Patrick King aussi. Et en fait, ils ont proposé une vision à la télévision de la sexualité, notamment féminine, qui était assez inédite. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on ne pensait pas forcément à des séries qui s'adressaient à un public féminin, si ce n'est les soap-opéras, qui étaient quand même encore assez présents à la télévision depuis aussi les années 80 et tout ça. Mais en fait, HBO avait acquis déjà un petit peu ce statut déjà de chaîne du câble. Donc, on doit payer pour la regarder. Donc forcément, il y a plus d'argent derrière, et puis il y a des contenus qui se veulent plus prestigieux. On dit d'ailleurs « it's not television, it's HBO ». C'est une marque de fabrique en tant que telle. Et en fait, avec Sex and the City, donc, ça a lancé aussi l'une de leurs plus grandes sitcoms. Donc, la sitcom, c'est le format 30 minutes aussi. Et donc, en fait, ça a été novateur à plein d'égards, parce que c'est vrai que quand on y pense, les séries avec des personnages féminins qui en plus sont adultes comparées à des séries pour adolescents, parce que c'est vrai que quand on grandit en tant que femme, on voit beaucoup de séries pour adolescentes avec des amitiés aussi fortes, mais on voit quand même très peu de séries avec des femmes trentenaires dans des grandes villes aussi. Et Sex and the City a été un peu l'une des précurseurs en la matière. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se basait quand même sur des expériences réelles. Ce sont évidemment des personnages de fiction, mais chacune d'entre elles est un reflet d'une vraie femme. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même une série comme Girls, qui est quand même une sorte de prolongation un petit peu plus jeune de Sex and the City, s'appuie aussi sur des fragments de Lena Dunham qui l'a créée. Mais on voit aussi que c'est Sex and the City qui avait instauré une sorte de manière de raconter aussi l'expérience féminine.
Est-ce qu'il y a des différences notables entre les chroniques d'origine et la version filmée?
Ça parle pas mal de drogue quand même dans le livre. J'ai lu quelques extraits et c'est vrai que c'est HBO qui avait quand même demandé à couper pas mal de passages en référence à la drogue dure. Donc pour HBO, le sexe, ça passe tranquille, mais la drogue, non. C'était les années 90 encore.
Oui. Alors, question que je peux évidemment pas manquer de vous poser, c'est quel est votre personnage favori, Carline?
Ah, c'est compliqué, franchement. En fonction des épisodes, ça change. Il y a un moment, moi j'adore la liberté, évidemment, de Samantha. Elle est tellement libre, elle est drôle, elle prend sa vie en main, elle se pose pas de questions. Enfin, il y a quelque chose de très rassurant, je trouve, dans ce personnage. Le côté businesswoman de Miranda, je trouve aussi super, où elle a un projet, elle compte l'argent, enfin il y a quelque chose de concret. Celle qui m'énerve le plus, je dirais que c'est le personnage principal, Carrie, parce que...
Le syndrome du personnage principal qui est insupportable.
Vraiment, c'est ça. Elle est incapable de construire vraiment quelque chose, elle se plaint tout le temps. Puis franchement, sa vie, c'est quand même pas possible, quoi. Elle écrit des chroniques et elle a un rythme de vie, un style de vie, ce n'est pas possible. À notre âge, elle s'achète des chaussures à 400$ et tout le temps en soirée. Enfin, moi perso, c'est pas possible, surtout avec le loyer que je paye à Paris. Donc, voilà.
Oui, à New York, c'était, à mon avis, c'est pas moi. C'est ça.
Donc, voilà. Et puis bon, Charlotte, il y a le côté mignon, un peu coincé, mais c'est pas. Elles ont vraiment chacune leur personnalité, donc c'est vraiment en fonction des épisodes.
On sent quand même, on dirait Miranda. Voilà, la fusion de Samantha et Miranda.
Ouais.
Jennifer ?
Je pense qu'il est impossible de répondre à cette question et c'est fait exprès.
Hop, merci d'être venu.
Parce que justement, la narration veut qu'on se retrouve dans chacun des personnages et que même si, que ce soit sur Internet ou quand on discute avec des gens, tout le monde va dire « je suis à fond pour Samantha parce que c'est la plus libérée sexuellement », ça veut un peu rien dire parce qu'elles le sont toutes dans la série. Il n'y a pas forcément une qui a plus de relations sexuelles qu'une autre. Il y en a juste plus une qui le raconte de manière plus explicite que les autres. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que à chaque étape de sa vie et selon la période dans laquelle on la regarde, on pourra comprendre un peu plus un personnage comme Charlotte, qui au premier abord apparaît comme coincée, qui est en recherche du prince charmant absolu, alors que finalement, elle a beaucoup plus d'agentivité, d'autonomie que les autres, et elle sait beaucoup plus en fait ce qu'elle veut. Et je pense que...
Mais étonnamment, je trouve que Charlotte ressemble beaucoup plus à l'idée qu'on se fait de la génération 2024, devant le retour de certaines valeurs ou ce genre de choses. Je trouve que Charlotte était déjà vachement en 2024. On pensait qu'elle était en retard. En fait, non, elle était juste un tout petit peu en avance.
C'est la tradwife en avance du début des années 2000. Mais je pense qu'effectivement, c'est volontaire dans l'écriture de mettre chaque expérience, une expérience féminine, dans chacun des personnages, pour nous dire aussi ce que représentait le dating à l'époque. Parce que quand on parle de Sex and the City, c'est aussi expliquer un phénomène culturel d'une époque très précise, mais qui en même temps est intemporel. C'est que quand on la regarde aujourd'hui, il y a quelques épisodes qui vont pas du tout, notamment les épisodes qui traitent des questions raciales, de la bisexualité, des questions queer, etc. Mais de manière globale, c'est une série qu'on peut regarder aujourd'hui parce qu'elle est très bien écrite, qu'elle est drôle et qu'elle s'intéresse à quelque chose d'universel, donc le fait d'avoir des relations amoureuses, sexuelles. Mais elle s'intéresse vraiment à une époque précise où les femmes avaient une manière de parler, avaient une manière de consommer aussi le sexe. C'était une forme de seconde vague de la libération sexuelle qui était montrée à la télévision. Et comme le disait Océane, c'est que le fait que ça passe sur HBO rendait justement les choses plus explicites. C'était même le but.
Océane, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, mais pour le moment, on va écouter un titre qu'on entend dans Sex and the City, Bad Girls, de Donna Summer. Voilà, on reste dans la joie, dans le côté urbain. Allez, on pousse les meubles, Donna Summer.
Blockbuster sur France Inter.
De quoi vous parliez ?
On parlait des couilles du petit ami de Charlotte.
Sérieusement ?
Elle descend.
C'est une déduction. D'accord. J'en ai assez.
I'm out of here.
Je m'en vais. Et ces temps-ci, vous n'avez pas d'autres sujets de conversation que big ou les boules ou les micro-sexes. Comment se fait-il que quatre femmes intelligentes ne puissent parler d'autre chose que de leurs petits amis ? On dirait des pucelles devant des militaires. Si on parlait de nous, de ce qu'on connaît, de ce qu'on sent, de ce qu'on pense, c'est bien plus enrichissant. Les hommes ne sont pas le nombril du monde. Je vais vous dire une chose. Appelez-moi quand vous serez décidé à parler d'autre chose que des mecs pour changer.
Un extrait du premier épisode de la deuxième saison de Sex and the City, Océane.
Bah,
je vais tenir
mot,
ma promesse.
Ouais.
Votre... je ne sais plus quelle était la question.
Quelle est l'héroïne de Sex and the City préférée ? Moi, c'est Charlotte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est elle qui est l'âme de And Just Like That, qui est donc la nouvelle prolongation, on va dire, de Sex and the City après les films. Parce que je trouve que c'est celle qui essaye le plus de comprendre le monde dans lequel elle vit, notamment avec son enfant qui fait son coming out non-binaire. Elle réalise aussi que son entourage, en fait, est extrêmement blanc et du coup, elle essaie de se trouver des amis noirs de manière très, très maladroite, un peu comme le fait la série.
De manière générale, quand on cherche un ami noir, c'est toujours très maladroit.
Exactement.
Voilà.
Et là, en l'occurrence, elle essaie d'avoir elle-même une remise en question d'elle-même que je trouve les autres personnages n'ont pas forcément à ce point, si ce n'est peut-être Miranda qui part dans une aventure un peu, voilà. Mais en fait, je trouve que Charlotte essaie vraiment de comprendre toujours le monde avec bienveillance, en dépit du fait d'être effectivement le modèle parfait de la trad wife. Elle a, je trouve au contraire, la famille peut-être la plus moderne qui soit de Sex and the City, notamment avec ses mariages et ses divorces. Et j'aime beaucoup le contraste entre elle qui essaie vraiment d'avoir les choses de façon les plus traditionnelles possibles, mais qui accepte quand même que la modernité et que ce qu'elle ne connaît pas prennent de la place dans son quotidien.
On l'a dit, hein, Charlotte, elle était déjà en 2024. Et c'est juste too soon, too soon. Et évidemment, on doit aussi parler de Carrie et du fameux Mr. Big. C'est le seul homme à être présent au premier et dernier épisode de Sex and the City. Et donc, que penser de ce fil scénaristique qui nous tient comme ça, qui revient à intervalles réguliers?
Ils ne se méritent pas tous les deux, c'est ça qui est formidable. C'est qu'en fait, à la fois, ils ne se méritent pas parce qu'ils sont odieux l'un envers l'autre, en même temps, ils sont tellement odieux aussi avec les autres gens autour d'eux, que finalement, quand ils sont ensemble, au moins, ils ne font de mal à personne d'autre. C'est ma philosophie par rapport à eux deux.
C'est bien.
Moi, je vais me faire des ennemis parce que je sais que le combat entre Mr. Big et Aiden et ce qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui, des disputes, des ruptures.
Ah bah, il y a même eu des guerres. Il y a eu des guerres, des nations qui désormais ne sont toujours pas réveillées.
Et alors moi, je suis plutôt pour Mr. Big parce que je trouve que, excusez-moi, que la série en fait montre très bien ce qu'on vit au moins une fois dans sa vie, c'est-à-dire ce grand amour quasi impossible ou qui parviendra peut-être à quelque chose, mais qui est l'un des rythmes en fait sentimentaux qui fait que les femmes s'empêchent de vivre, s'empêchent d'évoluer, et en fait c'est grâce ou à cause de ça que on peut suivre Carrie pendant autant de temps. C'est parce que elle a ce grand amour qui est là, qui est dans sa tête, qui est un peu une ombre comme ça dans sa vie, et qui fait qu'elle fait souvent des mauvais choix, et en même temps c'est l'objectif de sa vie, c'est d'être avec lui parce qu'elle l'aime. Et je trouve que la série montre très bien cette dualité entre il est là quelque part, mais en même temps je vis mes expériences amoureuses. C'est aussi les conversations que j'ai avec mes amis et qui font que parfois je suis une mauvaise amie, j'ai du mal professionnellement, etc., etc. Et je trouve que ça, ils ont vraiment réussi à trouver ce truc qu'on arrive peu à expliquer dans la vie quand on parle de ce grand amour. Et donc je suis plutôt pour Mr. Big. Après, mon gros problème, c'est que la série s'est trompée. C'est que dès le départ, on nous fait croire que Mr. Big est un, disons-le, un connard, alors que finalement, en fait, Carrie est aussi une personne qui ne comprend pas, qui n'entend pas, et qui poursuit, en fait, l'impossible. Et ça, quand on revoit la série, c'est très dur à accepter, parce qu'on se dit, qu'est-ce que tu fais ? Enfin, vraiment, il faut se calmer.
C'est intéressant, parce que j'ai une auditrice qui savait, on avait annoncé le programme sur Instagram, et elle m'a envoyé un message dans lequel elle dit à peu près la même chose, et où elle dit, en fait, le défaut de Mr. Big qui n'en est pas un pour elle, c'est que lui, il sait ce qu'il veut. Mm-hmm. Carrie ne sait pas. Il trouve Carrie très amusante, il passe de bons moments avec, mais comme lui, il a déjà un divorce à gérer dans une classe sociale dans laquelle qui est tenue par des codes, il n'a pas en plus envie de s'afficher avec quelqu'un qui n'est finalement pas de ce monde-là, même si effectivement elle est dans un sérail new-yorkais très branché, mais elle n'est pas aussi riche, pas aussi bourgeoise que lui. Et que donc il veut bien passer du temps avec, mais pas plus.
Oui, et il lui fait comprendre dès le premier épisode que c'est ça qu'il veut, et que peut-être qu'il y aura plus au fur et à mesure. Sauf que elle, le problème, c'est que comme ses copines, elles sont dans la dualité entre j'ai peut-être rencontré quelqu'un d'intéressant avec qui je peux construire quelque chose, mais en même temps, l'heure tourne et le but, c'est de se marier. Et donc il y a quand même ce truc très moralisateur.
Ce qui est un modèle très très classique en fait.
Complètement classique. Et donc on voit que cette envie de modernité en parlant de sexualité tout le long, en étant quand même très cru, même physiquement parfois, contrebalance avec l'idée que le but quand même de toutes ces femmes, sauf Samantha qui le dit très vite, c'est de se marier, c'est de se caser, c'est de rester dans un modèle quand même assez classique. Et ça, on le voit vraiment dans la première saison, quand à chaque fois au début d'un épisode, c'est l'histoire de d'autres personnes en fait qu'elle raconte, et à chaque fois c'est un exemple d'une relation qui a mal tourné et qui montre un peu les déboires pour les femmes de rencontrer le grand amour ou de trouver la perle rare. Et donc cette dualité, je trouve qu'elle reste pendant toute la série. et explose dans And Just Like That, qui est juste horrible. Je pèse mes mots et je pense qu'il
n'aurait
pas
dû... C'est le titre français.
Voilà,
Just Like That, c'est juste horrible.
And Just Like That. C'est moi qui l'ai ajouté. qui est le reboot donc, de la série et qui vient après les deux films qui ont explosé.
Il n'y a pas eu de film.
Je vous ai trouvé très dur pour le Sex and the City.
Vous saviez ce qui était dur ? Le film. Ça, c'était dur. Hein. C'était dur. Les 15 minutes à regarder des robes de mariée, là, Vivien Westwood et tout ça. Hein, quand on a du sang qui coule des yeux, c'est difficile aussi.
Après, elles sont jolies, les robes de mariée.
Oui,
voilà.
Puis, sincèrement, il y a quand même l'une des meilleures scènes au monde, qui est la scène où, désolé, on va divulguer cette partie, où Big, en fait, ne vient pas au mariage. Et donc, cette scène de la limousine qui est juste incroyable, avec le bouquet de fleurs sur la tête. Voilà. Ouais. Mais le 2, je l'admets, et...
Horrible.
Voilà. Et horrible, n'aurait pas dû être fait.
Exactement. Caroline, un avis sur la relation avec Mr. Big ?
Bah, je suis assez d'accord avec Jennifer, parce que... oui, c'est ça, c'est vraiment avoir tellement envie de quelque chose, mais on n'est pas prêt psychologiquement et dans notre vie à vraiment comprendre tout ce qui en dépend et vraiment aussi comprendre l'autre. Il y a plein de scènes, oui, où elle l'engueule tout le temps, en fait. Enfin, c'est assez marquant et lui qui ne comprend pas parce que ce que tu disais, il est posé dans sa vie, donc. C'est un peu toxique, en fait. Et justement, ça ramène à... Enfin, on en parle beaucoup aujourd'hui, justement, des relations toxiques et comment on n'arrive pas à se défaire de quelqu'un et ce qui nous apporte le fait de beaucoup pleurer, d'être en boucle. Il y a un épisode où Carrie est avec ses copines et elle arrête pas d'en parler. C'est en boucle, en boucle, en boucle. Et ses copines lui disent, bon, en fait, il faut que tu te trouves un psy parce que nous, on n'en peut plus, quoi. Enfin, on est là, mais... Et elles sont là. Et on voit aussi que les amis sont là pour ça aussi, mais... Il y a un moment où ça nous dépasse, ça nous ronge trop. Et je trouve que c'est vraiment bien montré, quoi. Mais ouais, toxique, quoi, quand même.
Donc même si la forme était plutôt moderne et nouvelle pour l'époque, ça reste quand même l'éternel conte de fées. Oui. En fait, la différence de Sex and the City, c'est que on est à la recherche du prince charmant, sauf que là, on les teste avant.
C'est un peu ça, oui. Ouais.
Alors, on va continuer à parler de Sex and the City, mais pour le moment, on va écouter Uto avec Napkin.
As I watched people leaving church, I was amazed at how they looked. Valentino, Escada, Oscar de la Renta. What is it about God and fashion that goes so well together? And suddenly, there he was wearing Armani on Sunday.
Mr. Big.
Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter.
Je suis allée me coucher à 1h du matin. À 2h30, je ne dormais toujours pas. Il n'y avait rien à ajouter. On s'était tout dit. Après avoir fait l'amour, j'ai su que c'était fini. Est-ce que j'avais vraiment aimé Big ou est-ce que j'avais aimé cette douleur exquise provoquée par le fait de désirer si fort quelqu'un d'inaccessible.
Hey. What are you doing over there?
Qu'est-ce que tu fais là?
Go to Paris.
Va à Paris.
I'm not gonna come.
Je ne viendrai pas.
Let's not pretend we're something we're not.
On ne va pas faire semblant plus longtemps.
It's okay.
Ça ne fait rien.
Come to bed.
Viens près de moi.
Je voulais aller près de lui, mais j'avais l'impression d'être attachée sur ma chaise. Quelque chose en moi m'interdisait de bouger. Je n'avais plus rien à donner. J'avais atteint mes limites. Et comme ça, je me suis détachée de Mr. Big. J'étais libre. Mais cette liberté n'avait rien d'exquis.
Un extrait de la saison 2, épisode 12 de Sex and the City où Carrie comprend, après avoir fait l'amour avec Mr. Big, que c'est fini, alors que moi, ça a souvent été avant de faire l'amour. Vraiment, je... Merci, c'est un qui vient de comprendre. Question suivante. Quittons ce moment gênant. Il y a Charles Lazateur qui est mort de rire. Il y a aussi un rapport un peu particulier dans Sex and the City, c'est le placement de produits. Parce que... au-delà d'une série sur l'amitié et aussi sur la sexualité, ça a été des influenceuses de folie.
Les premières influenceuses, voilà, sans Internet. On ne l'a pas forcément précisé, mais c'est vrai que Sex and the City qui arrive en 98, au départ, c'est une série bon, qui fonctionne plutôt bien, mais qui a vraiment pris en tournant à partir de la saison 2. Et donc forcément, il y a eu une explosion d'intérêt pour les marques. C'est devenu vraiment un phénomène de société parce que ça parle aussi de mode. Carrie Bradshaw est considérée dans la série comme une icône de mode par rapport à ses tenues, par rapport aussi du milieu dans lequel elle évolue, parce que même si elle écrit des chroniques sur le sexe, elle écrit plus tard pour Vogue. Et plus généralement, elle est dans le milieu journalistique plutôt société, lifestyle, mode. Et donc forcément, ça a vraiment généré une attraction énorme en fait à l'extérieur, que ce soit les actrices qui ont triplé, voire quintuplé leur salaire au fur et à mesure des saisons. Énormément de téléspectateurs. De nombreuses collaborations avec des marques, des défilés. Enfin, il y a vraiment...
Et aussi une explosion de vente des vibromasseurs.
Oui, aussi.
Qui était un épisode en particulier.
Oui, complètement. Mais c'est vrai qu'il faut voir cette série comme un phénomène en fait, de société qui reflète une époque où c'était... la seule manière, en tout cas en dehors des magazines, pour les marques, pour des phénomènes en fait, de société, pour exister. Et donc une série comme Sex and the City, c'était parfait, parce que quatre personnes, quatre femmes dans leur trentaine, qui représentent la génération de l'époque et qui forcément étaient les parfaits porte-manteaux pour ça. Alors je trouve que dans Sex and the City, la série, ça reste ok, parce qu'il y a vraiment l'idée de tendance, de mise en avant de phénomènes culturels, mais c'est vraiment à partir des films qu'on voit que ça a shifté, parce que justement, on se retrouve aussi dans la génération connectée, où là, il y a beaucoup plus les réseaux sociaux, où il y a vraiment une envie de mainmise sur cette série, enfin sur les films, et de faire juste de la promotion.
Des films qui ont extrêmement bien marché, en dépit d'un accueil critique assez mauvais.
Oui.
Mais juste Océane. Pour une dernière chose sur la mode, ce qui est intéressant, c'est aussi le travail de tous les costumiers et costumières sur la série. Et pour vous dire à quel point c'est important, c'est que déjà aussi la mode dit beaucoup du caractère des personnages, et bon, ça s'applique évidemment à toutes les séries. Mais pour son caméo à la fin de la saison 2 de And Just Like That, Kim Cattrall avait exigé que sa tenue soit designée par la costumière historique de Sex and the City. Donc il y a aussi, je pense, une relation extrêmement importante entre les actrices et les costumières, parce qu'elles ont su leur donner une personnalité et qui après, en fait, a rebondi sur le sens de la mode des actrices dans leur vie quotidienne et qui leur a permis aussi d'avoir des contrats avec des marques de mode, des couvertures de magazines. Donc la mode, effectivement, il y a eu un aspect un petit peu mercantile autour, mais je trouve aussi que dans la série, c'est une philosophie. Et un de mes épisodes préférés de la série, c'est celui où Carrie, en fait, perd une paire de Manolo Blahnik chez une amie. Et en fait, cette amie est...
Une paire de quoi ?
De Manolo Blahnik, la fameuse marque de chaussures de Carrie. Et en fait, pendant tout l'épisode, en fait, il y a une embrouille entre Carrie et cette amie parce que la paire de Carrie a été volée. Et c'est un drame national, international même. Et en fait, l'épisode se termine sur elle qui se réconcilie parce que l'amie de Carrie lui réoffre une autre paire. Et en fait, je trouve ça vraiment très drôle de se dire que pour ces femmes-là, le vrai problème, c'est d'avoir de s'être fait voler une paire de chaussures.
Ça illustre
très bien la légèreté de la série et en même temps à quel point aussi l'amitié parfois est aussi codifiée par la mode et par ce type de rythme.
En même temps, ça fait des décennies qu'on nous saoule avec Cendrillon. Hein.
Ah oui.
C'est aussi une paire de chaussures. Hein.
Une seule chaussure, techniquement.
Oui, mais techniquement, c'est une grolle.
Un peu moins cher.
Mais justement, j'allais parler de cet épisode, pas pour les mêmes raisons, parce que justement, je trouve que cet épisode sort du côté superficiel qu'on pourrait croire, de se dire, oh là là, elle a perdu sa paire de chaussures. Alors déjà, sa paire de chaussures coûte...
Très cher,
oui, en dollars. Les perdre à une crémaillère parce que l'hôte a décidé qu'il fallait être sans chaussures, c'est quand même un petit souci. Et en fait, ce que je trouve passionnant dans cet épisode, qui je trouve reflète en fait ce que la série fait de mieux en termes d'écriture, en termes d'humour un peu pince sans rire, c'est justement de nous faire croire que la mode a cet unique aspect mercantile et superficiel, alors qu'en fait ce qu'elle explique à cette amie qui n'en est pas vraiment une, c'est que c'est pas parce que elle son intérêt pour la mode ou parce qu'elle est célibataire ou parce que elle n'a pas d'enfant, elle serait moins importante que cette amie donc qui a un enfant, qui est mariée, etc. Aurait le droit en fait de la juger, parce que c'est ce qu'elle fait en fait dans cet épisode, c'est de lui dire mais attends, c'est pas grave, t'as perdu ta paire de chaussures, passons à autre chose. Et en fait Carrie elle revient un peu sur le passé de leur amitié. Elle dit mais attends, je t'ai offert des cadeaux pour ton mariage, pour les 1 an de ton fils, pour le baptême de ta fille, pour ceci, pour cela, mais parce que toi en fait tu es dans une vie plus conventionnelle, ce serait ok, mais parce que moi je suis célibataire et que je n'ai pas d'enfant, je n'aurais pas le droit d'être remboursée en fait ma paire de chaussures qui m'appartient et qui en fait est complètement c'est complètement normal de me rembourser quelque chose qu'on m'a volé chez toi. Et je trouve que cet épisode est passionnant vraiment parce que y a tout. Il y a à la fois la mode, il y a à la fois les conventions sociales et le rapport en fait qu'on peut trouver selon où on se trouve dans la société. Et même entre amis, finalement, elle se juge, enfin son amie la juge en lui disant mais tu es futile. Et en lui disant ça, c'est aussi une manière de lui reprocher sa vie, mais aussi son métier, parce que son métier peut paraître futile pour plein de gens. Et je pense que c'est important en fait de voir aussi Sex and the City comme quelque chose qui va au-delà de juste des femmes qui sont en train de bruncher autour d'un mimosa ou d'un cosmo et qui parlent de sexe en fait. Elles parlent finalement de plein de choses de la vie et du regard que la société en fait porte sur les femmes de manière générale, mais aussi porte sur les femmes célibataires sans enfants qui ont décidé d'avoir des vies qui sortent des conventions.
Alors là, j'ai rien à dire. Moi, je veux dire, j'attaquerai jamais Sex and the City en justice, parce que si l'avocat c'est Jennifer Padgemi, bon bah voilà, tu dis écoutez, non coupable, hein, vraiment non coupable. On va attaquer la dernière partie de cette émission, mais pour le moment, on écoute Gringe avec Effet de surplomb.
Pendant ce temps, sur la terre ferme, dans les beaux quartiers, Samantha et Monsieur Juillet éteignaient leur propre incendie.
Si puissant et viril.
Je crois que le terme officiel dans le langage des pompiers, c'est « alerte de niveau 4.
Moi je manque d'espace, plus je tourne en rond. Le temps passe et je le trouve tout le temps long. Check le à l'endroit, ce monde est vaste. Check le à l'envers, c'est un trou sans fond. Je fais du sur place, j'ai des visions. Longue distance, net et 100 pixels. Pas milliards d'étoiles, l'univers en expansion. Je suis un caillou, la vie ruisselle. Un bled paumé dans une banlieue lointaine. Là tout au confin d'une galaxie lointaine. Tu vois, de tout en bas, ouais. On dirait une petite bille bleue suspendue dans le vide à une ficelle. Autant d'espace, fallait bien que je saute. J'ai le mal de mer, je suis du cosmonaute. Et des vertiges, quand faut choisir ma place dans le car. Mais moi je suis bien à ma place nulle part. Des dates butoirs et des open space. Un canular pour 8 milliards de sims. Assoiffé par l'odeur du sang et des clichés. Régis par des comportements téléguidés. Tout ça atteint par le complexe d'Hermès. On sait plus réfléchir en termes d'espèces. Dépourvu de nos quêtes de sens. Le fil qui s'en mêle, un soudain vertige. Je suis du vide existentiel. Rien n'est grave si plus rien n'a de sens. Rien n'en a vraiment non. J'ai contemplé son obsolescence jusqu'à son avènement. L'ombre du soleil,
absurde.
L'argent de Dieu,
absurde.
Le recyclage de la renaissance. La hiérarchie des anges, les alliances en temps de guerre,
absurde.
Le chaos du néant,
absurde.
Un indien alcoolique. La serrure des portes du paradis. Le froid qui brûle la peau, l'aveuglé par l'invisible. Fiction de la mort. Mieux vaut hiberner, s'envoyer du plomb. Tous pris au piège en d'immenses circuits fermés. Des prix de vertige, j'ai fait sur plomb. Plonge dans l'inconnu, le paradoxe de Fermi. Celle de Gizeh, pyramide de Ponzi. Des mausolées que l'homme s'est lui-même construit. Tu cherches sa trace, mais y'a plus qu'un humanoïde qui se contente de sourire face au vide. L'ombre du soleil, l'argent de Dieu. Le recyclage de la renaissance. La hiérarchie des anges, les alliances en temps de guerre. Le chaos du néant. Un indien alcoolique. La serrure des portes du paradis. Le froid qui brûle la peau, l'aveuglé par l'invisible.
White Knight?
That only happens in fairy tales.
My hair hurts.
Blockbuster.
Je suis pas mauvaise.
Frédéric Sigrist.
Je suis juste dessinée comme ça.
Sur France Inter.
I'm not an old lady.
Je suis pas une personne âgée. J'ai une malformation congénitale de la hanche. C'est très différent.
Mais tu es sur le point de te faire opérer de la hanche et ça, c'est quand même un truc de personne âgée.
C'est vrai qu'une opération de la hanche, c'est pas vraiment branché, si tu vois ce que je veux dire.
Mais, ma chérie, si tu utilises le mot branché, tu vas vite te déhancher dans la même maison de retraite que Carrie.
Tu peux toujours rêver pour que je t'offre le déjeuner.
C'est bon, arrête. On est tous absolument ravis que tu aies trouvé un archéologue qui accepte d'ouvrir ta vieille carcasse pour remettre en place tous les fossiles qu'il y a à l'intérieur.
Anthony.
Tu vois, ça l'a fait rire. C'est mon premier déj tout seul avec vous les filles. J'ai une de ces pressions.
Et si on commandait du champagne?
Miranda, tu as vu l'heure? Il n'est même pas
12h30. On fait quelque chose. Anthony est avec nous et Carrie n'est pas une vieille femme.
Je ne suis pas vieille.
Et le docteur Patel a dit qu'il n'en revenait pas, que j'arrivais encore à tenir debout. Et vu les 2 mois que je viens de vivre, j'en reviens pas non plus.
Ah.
Un extrait d'And Just Like That, la suite de Sex and the City, diffusée depuis 2021 sur HBO, dans laquelle on suit le quotidien de Carrie, Miranda et Charlotte, qui ont désormais 55 ans. Kim Cattrall, oui, Kim Cattrall, celle qui a joué dans Jack Burton dans Les Griffes du Monde à Rhin, la fabuleuse Samantha, elle n'a pas souhaité participer à cette série au grand désespoir du public. Et là, je me tourne vers vous. Pourquoi ?
Alors,
c'est compliqué.
Mais c'est des histoires personnelles entre les actrices.
Entre Sarah Jessica Parker.
Voilà, entre Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall, où on a découvert il y a quelques années par un message sur Instagram que donc Kim Cattrall détestait Sarah Jessica Parker pour des raisons voilà. Variée, mais en gros, elle lui avait souhaité ses condoléances par rapport à sa mère qui était décédée, et elle lui a répondu en gros, l'hypocrisie, je n'en veux plus, en gros, je ne veux plus rien avoir avec toi.
C'est pas son frère ?
Son frère. Bon, pour un décès, voilà. Je me souvenais de ça. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que dans le reboot de la série, elle n'y est pas. Sauf qu'elle a accepté pour la deuxième saison d'apparaître on la voit dans une voiture et elle est toute seule, elle n'a pas de dialogue direct avec ses collègues et donc c'est la seule manière dont Kim Cattrall a accepté d'être dans la série et c'est vrai qu'on sent vraiment...
Parce qu'elle est censée être à Londres...
Voilà, elle est censée être à Londres, elle est censée... Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez logique ou cohérent... au premier abord, parce que elles sont censées être éloignées amicalement, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Elles ont 55 ans, ça fait 30 ans qu'elles se connaissent, et donc il y a des aléas de la vie qui font que. Mais c'est vrai que par rapport à ça aurait été peut-être plus cohérent avec un autre personnage, alors que Samantha et Carrie dans la série, elles sont quand même, elles sont très très proches. Mmh.
Carline, qu'avez-vous trouvé dans Just Like That?
Alors, moi, j'ai pas trop aimé, en vrai. J'ai regardé la première saison qui m'a un peu perdue. Parce que j'ai pas accroché. Justement, le côté très mode m'a vite gavé. C'était trop, il y avait beaucoup trop de... merchandising un peu.
Ça devenait une parodie.
Ouais, quand même. Et il y avait des persos que je comprenais plus, trop, en fait. Là, il y a le couple, par exemple, Miranda et Steve.
Par contre, vous avez eu un grand sourire quand vous avez parlé de Steve.
c'est le plus gentil de la série. Donc oui, j'ai une affection particulière pour ce personnage. Miranda, elle a son aventure à part et en fait, je comprends, enfin je vois plus trop où est-ce qu'ils veulent aller en fait, donc ouais, ça m'a pas.
Océane.
Bah moi j'avais trouvé la première saison assez drôle, justement dans sa manière de se remettre en question par rapport aux manquements sur les questions raciales et queer notamment d'il y a 20 ans. Mais ça c'était sur la première saison parce que la deuxième j'ai trouvé ça vraiment très mal écrit. J'ai trouvé que les nouveaux personnages qui sont censés être les amis justement des trois amis qui restent presque parfois plus intéressantes que les héroïnes principales. Sur le couple Miranda-Steve, je pense aussi que c'était une volonté de Cynthia Nixon de montrer que à l'instar d'elle qui dans la vie a fait son coming out en tant que lesbienne, je pense aussi que dans la série elle voulait que son histoire personnelle se reflète un peu plus dans le personnage de Miranda, ce qui est tout à son honneur, ce qui a ses qualités et ses défauts. Mais après, j'ai pas eu l'impression que la série, au-delà de la saison 2, voulait raconter quelque chose. Et aussi qu'elle se contentait de réutiliser les mêmes personnages, notamment Hayden aussi, qui revient, où on se dit « Bon, allez, cette fois, c'est la bonne, après, je ne sais pas combien de tentatives. » Et en fait, non, toujours pas. Et en fait, j'ai eu l'impression que la série faisait une pirouette sur elle-même, sans aucune conséquence, si ce n'est vouloir montrer les fringues des derniers créateurs. Donc je regarderai la saison 3, mais pour moi, il devrait arrêter. C'est pas grave si ça continue pas.
Alors, Jennifer, très très rapidement, parce qu'il nous reste 30 secondes, en quoi c'est quand même la victoire des gentils?
Sex and the City?
Oui.
Alors,
30 secondes.
Quelle pression. La victoire des gentils, je pense que c'est notamment par rapport aux personnages de Harry et de Steve qui ont montré dans la série qu'il était possible d'être un homme respectueux et de faire bien les choses sans forcément avoir à faire souffrir les femmes. Mais je voulais surtout rebondir en disant que...
Ah là, faut pas rebondir, 30 secondes, on rebondit
que la saison 2 de And Just Like That est beaucoup mieux et justement, il faut voir comment elles vont évoluer parce que y a l'une des choses les plus intéressantes, c'est leur âge. Et le fait de voir des femmes âgées aujourd'hui dans une série est important.
Merci Jennifer, merci Caroline, merci Océane. J'aimerais remercier également Charles de Silla qui a réalisé cette émission. Une émission préparée de main de maître par Lisiane Larbani qui est fan, etc. Merci à elle. À la technique aujourd'hui, on remercie Alex Oléravajou, Otinois, et au mixage Maxime Goudard. Et vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler avec moi sur Instagram. Et demain, on se retrouve non pas pour parler de William Shakespeare comme c'était annoncé, mais d'Alain Delon, actualité oblige, mais on parlera d'Alain Delon à la manière de Blockbuster.
Hey, what's going on? Why are you crying?
James has a small dick.
Oh, well, it's not the end of the world.
It's really small.
How small?
Too small.
Well, size isn't everything.
3 inches?
Well?
Hard?
Ugh.